Alors, on est Daftsa Digdale d'Amudalef, 11e ligne. Le Marbe Hamisra. C'est un verset dans le livre de Yeshaya. Avant, on avait parlé un petit peu de Mashiach. Maintenant, l'Agma va continuer à parler. On a parlé de Sanhérif. Alors, le verset dans le prophète Yeshaya, il y a un verset. Le Marbe Hamisra, pour la grandeur de la tâche, où le shalom enketz et pour la paix à l'infini, al kissé David, sur le trône de David, v'amamlachto pour son royaume, l'achin ota pour la renforcer, ou le saadat, ou la fortifier, le mishpat ou bitzdaka avec justice et avec tzedaka, générosité, mais atav adolam, de maintenant jusqu'à jamais, kinat Hashem tzvakot ta'asezot. L'intervention, la défense de Dieu, elle fera ça. De quoi il s'agit? Alors, le prophète Yeshaya a prêché à l'époque de quatre rois. Le roi d'abord Ouzia, après son fils Achaz, après son fils Chizkia, son fils, non, il y avait Ouzia, son fils Yotam, après Achaz et Chizkia. Comme ça, il est marqué au début du livre de Yeshaya. Il y avait quatre rois qui étaient la tribu de Juda, c'était la descendance de Yamelech. Donc le premier, Ouzia. Ouzia, il a fait du ktoret, il est devenu lépreux, il a fini sa vie malade. Et après, Yotam, c'était un archi tzaddik, Yotam phénoménal, tzaddik Yotam. Même que l'Etnach ne raconte pas grand-chose sur lui. Et ce Yotam, il avait un fils qui était un archi racha, Achaz. Achaz, il était allé détruire la Torah. Et lui, il avait un fils, archi tzaddik, le roi Chizkia. C'est intéressant. Intéressant comment les générations, ils étaient comme ça. Alors, le roi Chizkia, il était phénoménal. Et le texte, il dit, le Marbe Hamisra, il avait une place prépondérante. Le Shalom Enketz, la paix infinie. Dieu voulait lui donner la paix infinie. Comment c'est possible? La paix infinie, il a eu la paix infinie. La paix infinie, c'est à l'époque de Mashiach, il y aura la paix infinie. Avant Mashiach, il y aura des fois la paix, c'est juste, mais ce n'est pas à l'infini. Comment le prophète, il parle au sujet de Yeshaya d'une paix infinie? Ce qui veut nous allusionner, qu'en effet, il y avait dans le programme de Dieu, un programme, il y a beaucoup de programmes chez Dieu, il y a beaucoup de possibilités dans son ordinateur, mais un projet a été que Chizkia Melech soit le roi de la maison de David, que lui sera le Mashiach. Ce projet existait. C'était une éventualité. La Shalom Enketz aurait pu terminer avec la paix à l'infini. Al kissé David sur le trône de David de Malachto, pour la renforcer avec Mishpat, Tzedaka, mais à Tavadola m'appartient maintenant jusqu'à jamais. Ce projet existait. Amar Rabbi Tanhum, il a dit, c'est le même Medrash, Tanhuma, c'est Rabbi Tanhum. Darash Bar Kappara, il a fait un discours. Tzipori, dans la ville de Tzipori. Tzipori, c'était Rabbi aussi, à un moment, il était à Tzipori. Rebbe, parfois, sa yeshiva était à Tibériade, et quand il était malade, c'était à Tsipouri. Tibériade, c'est très chaud, c'est en bas, et en Kinneret. Tsipouri, c'est en haut, comme Tzfat. C'est sur le sommet des montagnes, là-bas, au Galil HaElyon. Et l'air était mieux là-bas. Donc, il y avait des moments où la yeshiva était à Tibériade, et des moments où la yeshiva était à Tsipouri. Et Kappara, c'était un grand copain de Rebbe, un homme très proche de Rebbe. Alors, il a fait une dracha tzipouri. Mipnema kolmem shebe'em patuach. On sait que dans l'hébreu, il y a 22 lettres et il y a certaines lettres qui ne sont pas écrites de la même façon s'ils sont au milieu ou ils sont à la fin. Menatsper, mem, nun, tzadik, pei, kaf. Au milieu de la lettre, ils ne sont pas écrits de la même façon qu'à la fin. Alors, entre autres, le même au milieu de la lettre est ouverte. C'est un kaf et après un vav. Ils sont accrochés en haut. Kaf, vav, accrochés en haut. Mais en bas, il y a une ouverture. On appelle ça un même patouach. Quand le même il est à la fin de la lettre, du mot, il s'appelle même satoum, un même fermé. C'est un carré, ou presque un carré, en tout cas c'est fermé. Sauf qu'il y a une exception. Le marbe hamisra, le même de marbe, il est fermé. Non, le marbe, le même. Alors, le marbe hamisra, le même de marbe, il est donc fermé, ce qui est bizarre. Donc, Rabbi Bar Kappara, il a interprété, Mipnima, kol mem shebem tzateiva patouach. Pourquoi chaque mem au milieu du mot est ouverte, vezé satoum, mais lui, il est fermé. Alors, ici, il y a une allusion. Bikesh akadesh bor chulasot chizki amashiach. Dieu, il avait un projet. Je peux transformer chizki en mashiach. Vesancherif gogomagog. Qu'est-ce que cette histoire de Sancherif? Alors, c'est une longue histoire qui est écrite plusieurs fois dans le Tanakh, une fois dans le livre de Yeshaya en longueur, et aussi une fois dans le livre de Melachim. Sancherif était le roi de l'Assyrie. Sa capitale, c'était Ninive. Et il a conquis tout le Proche-Orient, et après, il a conquis aussi Eretz Israël et Yerushalayim. On parle après que les 10 tribus sont déjà parties en exil. Donc, il restait les minorités des Juifs, il restait la tribu de Yehuda, la tribu de Binyamin, de Léviim et un peu de toutes les autres tribus. Il y avait un peu de toutes les autres tribus aussi. Les tzadikim des autres tribus ont rejoint Hizkia qui était Yerushalayim. Et Yeshaya Navi était Yerushalayim. Alors, Sanherif, il est venu pour détruire le Beth Amikdash, pour exiler les Juifs. Donc, il est venu, il a encerclé Yerushalayim. Et il a demandé qu'on capitule. Il a dit, s'il te plaît, monsieur Hizkia, tu vas maintenant capituler et je vais vous prendre, je vais vous amener dans un autre pays qui est beau comme le vôtre et je vais faire comme j'ai fait aux autres 10 tribus. Et Hizkia Melech, il est parti chez le prophète et il a dit, qu'est-ce qu'on fait, prophète? On capitule ou pas? Le roi Khazrev, il a dit que si vous capitulez pas, je fais la guerre, je fais un massacre. Si vous capitulez, je ne vous tue pas. Moi, je vais vous faire exiler. Yesaya Hanavi a dit à Hizkia, tu n'es pas obligé de capituler. On n'ouvre pas la porte et Dieu va faire un miracle. Et l'armée de Sanherib sera anéantie. Et pourquoi? Parce que Hizkia avait des immenses ruyotes, comme il a mis tout le monde à étudier. Il a fait un forcing, tout le monde s'est mis à étudier à son époque. Il a dit, les 10 tribus sont parties en exil, la Torah est en danger, on se met à étudier. Tout le monde a étudié. Ça faisait un tel changement. Donc le prophète, il a dit, tu n'as rien à craindre. Pendant la nuit, le texte, il dit, le malach, il est descendu, et dans une seconde, dans 10 secondes, dans 10 minutes, toute l'armée était anéantie. Comment c'est possible, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suppose que c'est un, je ne sais pas, à traduire en verbe moderne, une espèce d'électrochoc, la foudre qui est tombée sur toute l'armée, ils sont tous morts, sauf 5-6 personnes, ils sont restés vivants, entre autres Sanhérif, ses deux enfants, et Nebuchadnezzar, etc. Quelques personnes sont restées vivantes. Et il y avait un deuxième miracle qui est arrivé chez Hizkia, il était malade, à ce moment-là, il était archi malade. Et quand il était malade, le prophète est venu le visiter. Et Hizkia Melech, il a dit, dites-moi, monsieur le prophète, comment ça finira avec ma maladie? Alors, Jean, il a dit, c'est fini, de toute façon, tu vas mourir, c'est un exar au ciel. Alors, il a demandé pourquoi. Il a dit, parce que tu ne t'es pas marié, tu ne voulais pas avoir d'enfant. Alors, il a dit, je ne veux pas avoir d'enfant, parce que j'ai vu Baruch HaKodesh, que si j'ai un fils, il sera un rachat. Ce que d'ailleurs était vrai. Son fils était Menaché, un archi-rachat. Tu ne veux pas le prince héritier rachat. Et ça, une vie, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas à te mêler. Fais ce que la Torah t'a demandé. La Torah t'a demandé de se marier. Tu te maries. Alors, Hizkia lui dit, d'accord, je vais bien tenter. Est-ce que tu es d'accord de me donner ta fille? Il dit, je te donne ta fille. Mais de toute façon, c'est perdu. Moi, de ma part, je suis d'accord. Mais Hachem m'a dit que c'est perdu. Alors, Hizkia lui dit, je ne te crois pas. Parce que j'ai une tradition familiale, et un homme, il peut toujours prier et annuler encore le décret. Et il a prié, et Yeshaya Hanavi est revenu chez lui, il a dit, ta prière a été acceptée, on t'ajoute 15 ans. Très bien. Et en effet, il s'est marié avec la fille de... Il a dit, je te donne ma fille. Il s'est marié avec la fille d'Ishaïa Hanavi. Et ils ont eu un enfant. Et l'enfant, c'était le fameux Ménaché, le fameux Racha. D'ailleurs, ce Ménaché, il a tué son grand-père, Ishaïa Hanavi. Après Ménaché, il a eu un fils qui était encore aussi comme lui, peut-être encore pire. Après, ils ont un petit-fils qui était un Arsi Tzadik, qui a fait Tshuva, Yoshi Amel, etc. Bon. Alors maintenant, étant donné que Sanhérif, il a entouré la ville d'Yerushalayim, il a dit, je vais vous massacrer. Et Hachem, il a anéanti Gogomago, il a anéanti Sanhérif, et Chizkiya, il est resté le roi. Donc ça, c'est plus ou moins le scénario que les prophètes ont prévu pour la venue de Mashiach. Mashiach sera un roi, il va gouverner Yerushalayim, le monde entier va entourer Yerushalayim, ils voudront le massacrer, et Dieu il interviendra, et il va le sauver. Ça, c'est ce que les prophètes ils ont prévu. Alors, les prophètes n'ont jamais dit comment il s'appelle ce monsieur, ni à quelle époque. Ce sera à un moment. Donc, il y a plusieurs possibilités que la chose mûrisse. Alors, ici, chez Chizkiya, Akhtesbok lui dit, c'est un bon scénario. Voilà, Sanhérif est venu. Voilà, Morat Tzadik à Yerushalayim. C'est un bon candidat à être un Mashiach. Eh bien, on peut faire comme Chizkiya sera le Mashiach. Et Sanhérif aurait joué le rôle de Gog et Magog. Il s'appelait Gog et Magog. Le mot Gog et Magog, il parle de Chizkiya Hanavi. Gog et Magog, c'est un mot que Chizkiya Hanavi l'a dit. Yeshaï, il était plus tôt. À l'époque de Yeshaï, il s'appelait pas l'Afrique. Gog et Magog, s'appelait les Goyim vont se réunir. Ce que David et Melech, il dit dans le deuxième chapitre, la Marach, Goyim, l'Oumie, Grec, Al-Hashem, Al-Mashicho. Ce que David et Melech, il dit, comment il sera plus ou moins le scénario. Alors, donc, Dieu, il avait un projet de rendre Chizkiya Mashiach, mais Sanhérif joue le rôle de Gog et Magog. Le mot Gog et Magog, comme je disais, c'est un mot qui vient du prophète, il reste plus tard, mais la Gemara utilise ça déjà, parce que la Gemara, elle était écrite. Après, on sait que Chizkiya n'était pas la Mashiach. Il est venu après Chizkiya Hanavi. Il a dit le mot Gog et Magog. Et donc, ça joue le rôle de Gog et Magog. Amra Midat Adin, il venait à Kadesh Baruch Hu. Mais le problème, il est que le Midat Adin, c'est-à-dire le Satan, ce qui est nommé par le Dieu, c'est le procureur de la République céleste. Il y a un procureur qui est là pour toujours accuser, pour parler mal. Lui, il ramasse tous les arguments du mal, comme dans un justice aujourd'hui, un procureur de la République, et il y a des avocats qui défendent la personne, après des juges qui jugent. Donc le procureur, lui, il veut parler mal. Donc il a dit, répond le Sholola, maître du monde. Uma David Melech Israël Shamar Kama Shirot Yotish Bechot Lefanecha, si déjà le roi David, qui chantait devant toi beaucoup de louanges, Loasito de Mashiach, tu ne l'as pas rendu Mashiach, vérité David. Il était aussi un bon candidat. Voilà quelqu'un de la tribu de Yehuda, et qui est tzaddik, qui est le roi du Yerushalayim. Il aurait pu aussi être un bon candidat. Quand même, on n'a pas voulu que ce soit David. Malgré qu'il avait des immenses qualités, que vraiment il a chanté la gloire d'Hachem avec tous les télim. Chizkiya, chassite le kolanissim alalu. Chizkiya, à qui tu as fait tellement beaucoup de miracles. C'est-à-dire le miracle de le sauver de Sanhérif, et aussi le miracle de le guérir. Ah, j'ai oublié de raconter. Il a guéri après. Il a prié, et Ishaï Hanavi, il a dit, Dieu t'a ajouté. Il a guéri de sa maladie. Tu lui as fait tous ces miracles de le sauver de la main de Sanhérif, en plus de le guérir miraculeusement. Velo amar shira lefanecha. Et Chizkiya n'a pas chanté. Ta'aseu Mashiach. Tu veux le rendre au Mashiach. Chizkiya, elle a oublié de chanter la gloire d'Hachem. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il n'a pas chanté? Peut-être Satan, il a, parce que le Satan, il ne voulait pas qu'il soit Mashiach, justement. Le Satan, il avait peur que si Mashiach, si Chizkiya va chanter, peut-être il sera oui le Mashiach. Donc il a troublé, il lui a fait oublier de chanter. Et après, il a accusé Dieu. Voilà, il n'a pas chanté. Tu ne peux pas le rendre Mashiach. Le karnistatim. Et donc, tout de suite, ça se fermait. La proposition de Dieu se fermait. Ça, c'est le sens, le Mar Behamisra. Je reviens au verset, quand Yeshaya Nevi. Le Mar Behamisra, la grandeur de cette tâche. De quelle tâche il s'agit? De la tâche de être Mashiach. Marbe. Marbe, c'est grandir. On est marbe quelque chose, on a grandi. Les marbes elles-mêmes étaient ouvertes, la proposition était ouverte, elle se fermait cette proposition. Donc depuis Sanhérif, depuis Hizkia jusqu'à nous, il y a combien d'années? Il y a 2600 ans. Donc ça retardait quelques 2600 ans. Bon, c'est pas beaucoup, bien tu vas venir. D'accord. Alors, Nistatem, ça se fermait. Miat patra haaretz va amra la fanaf. Alors, la terre, elle a ouvert sa bouche et elle a dit, la terre, elle peut parler. Depuis quand la terre peut parler? Ça veut dire l'ange de la terre. La terre, elle a un ange. Chaque étoile a un ange. On a parlé. La terre a parlé. Patra haaretz amra la fanaf. Elle disait, ribon shel olam. Ani omeret lefanecha shira, tachat tzadik zeh. Moi, je vais chanter à la place de ce tzadik. Va assez au Mashiach. Prends le Mashiach. Je vais chanter à sa place. Patra va amrachir à la fanaf. La terre a commencé à chanter. Chez Neymar, le texte, il dit Mitnaf haaretz. Des coins de la terre. Zmirot shamanu. Nous avons entendu des chants. Svi la tzadik. La gloire pour le tzadik. Alors, qui c'est le tzadik? Pour Akadosh Baruch Hu, c'est le tzadik? C'est lui le tzadik. Chizkia, c'est le tzaddik. Va Omar, la qualité du tzaddik de Chizkia était tzaddik. Va Omar, et je dis, le prophète, il dit, Razi li, Razi li. Le secret est pour moi. Le secret est pour moi. Oili, gare à moi. Bogdim, des traîtres. Bagadou, ils vont trahir. Ou Beget, Bogdim, et traître des traîtres. Bagadou, ils vont trahir. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Alors, la terre voulait à tout prix que lui sera Mashiach, mais malheureusement, Yatzta Balko. Alors, Amar Sar Haolam Lefanaf, le Sar Haolam, le ministre du monde, le chef du monde, c'est-à-dire quoi le chef? La terre, elle a un ministre. Alors, il dirait, Bon Echololam Tzivyono, Asseil Tzadikazé. Donne-lui un Tzivyon, ça veut dire donne-lui le pouvoir à Mashiach. Dans le pouvoir à Mashiach, qui sera à Chizkia, ou que Chizkia sera Mashiach. Yat, va Amra, mais une voix du ciel, une voix prophétique est sortie du ciel, va Amra, elle a dit, Razili, Razili, le secret est pour moi. C'est-à-dire quoi, le secret, moi? Akadosh Baruch Hu dit, j'ai un secret, je ne veux pas que Chizkia sera le roi. Ce sera plus tard, c'est un secret, je ne vais pas dévoiler pourquoi. Il y a un truc, il cloche ici que je ne peux pas le rendre Mashiach. C'est Yeshaya Navi. Alors, Navi a dit, Oili, Oili, Admatai, gare à moi, jusqu'à quand? Ça veut dire quoi? Tu repousses, c'est pas maintenant Mashiach, donc c'est plus tard. C'est quoi plus tard? C'est qu'est-ce qui va se passer entre maintenant, jusque vraiment Mashiach va venir? J'ai peur qu'il va se passer des choses. La voix du ciel, elle a ajouté la fin du verset. Bogdim bagadou ou beged. Bogdim bagadou. Oh là là. Il y a six fois le mot begida. Begida, c'est une trahison. Bogdim, des traîtres, bagadou vont trahir ou beged bogdim. Et le top du top de la trahison, bagadou. Ça veut dire il y aura des catastrophes. Il y aura des trahisons, ça veut dire des gens, ils vont parler mal des Juifs, ils vont trahir les Juifs, et il y aura trahison sur trahison, c'est-à-dire, il y aura des catastrophes sur des catastrophes, jusqu'à le vrai va venir. Vama Rava, Rava il a dit, Vitem Rabbi Tzrak, il y en a qui disent Rabbi Tzrak, il a dit ça, Ad datu bezouze, ou bezouze de bezouze, jusqu'où vont venir des envahisseurs, des persécuteurs, des voleurs, ou bezouze de bezouze, vol après vol, persécution après persécution, jusqu'à Mashiach revenir, il y aura beaucoup des événements qui sont négatifs. Bon, tout ça, ça s'est déjà passé, avec tout ce qui s'est passé depuis 2600 ans, on espère que tout ça s'est déjà derrière nous. Alors, maintenant, il y a un autre verset dans le prophète Yeshaya qui parle un peu de ce sujet. Le verset dit Massa Douma. Massa Douma, Massa veut dire une charge, un discours lourd, un discours qui est lourd, qui est important, qui est sérieux. Douma, qu'est-ce que c'est Douma? Alors, il y en a un fils d'Ishmaël qu'on appelle Douma. Il y a 12 enfants, il s'appelle Douma. Massa, vis-à-vis de Douma, de ce fils d'Ishmaël, ce qu'il va faire. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? On entend Rouven? Rouven, on entend, d'accord. Massa Douma, il y a un autre pshat, Douma, c'est un ange, il s'appelle Douma. Et quel ange, quelle est sa fonction? C'est lui qui garde les âmes après qu'il quitte le monde. Velo kol yordei Douma, lo hameitim yahal luka, velo yordei, velo kol yordei Douma. Ce n'est pas les morts qui donnent des louanges à Dieu, et pas tous les âmes qui descendaient vers Douma. Donc c'est un ange qui garde les âmes après leur petit rat et il les place là où il doit les placer. Alors, Massa Douma, une charge en ce qui concerne ce Douma, et il a écouré Miseir. Il m'appelle de Seir. C'est quoi Seir? Seir, c'est Esav, et c'est aussi Ishmael, Esav. Shomer, Mamilaila. Shomer, le gardien. C'est quoi le gardien? C'est Akadesh Baruch Hu. Mamilaila. Qu'est-ce qu'il me raconte de la nuit ou de Yelala, de hurlements, des pleurs? Shomer, Mamilaila. Qu'est-ce qu'il parle de le gardien? Il s'étonne, Milaila, de ces hurlements de la nuit, dont la nuit. De quoi? Les tsarot, les juifs, le gardien, c'est le gardien, Kadesh Baruch Hu, il garde, il attend qu'on revienne déjà. Mais entre-temps, il y a des choses pendant la nuit, il y a des choses tristes. Alors, Amar Rabbi Yochanan, il a commenté ce verset. Oto malach hamemune à la ruchot. Cet ange qui est nommé à la ruchot, qui est nommé pour garder tous les âmes après la mort. Douma Shmo, il s'appelle Douma. Nitkap tsukola ruchot etzl Douma. Donc, tous les ruchot, ça veut dire que c'est les esprits des humains qui ont terminé à vivre, qui ont quitté le monde. Il vient chez cet ange et ils lui disent Amrolo, Shomer ma milayla, Shomer ma milayl. Nous, alors, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Qu'est-ce qu'il dit Dieu au sujet de tous ces problèmes qu'il y a dans le monde? Amar Shomer. Eh bien, le gardien, il dit, c'est la suite du verset. Amar Shomer, le gardien, c'est-à-dire à Kadesh Baruch Hu, il dit, Ataboker, il viendra le matin. Vegam Laila, mais il viendra après aussi la nuit. Al-Pshat Pashut, Ataboker, c'est le jour, c'est la deuxième, la construction du deuxième Beth Mikdash. La nuit représente la destruction du premier Beth Mikdash avec l'exil que les Juifs ils ont fait en Babylonie. Le gardien, Dieu, il a dit « Ata Boker », il va venir le matin, le deuxième Beth Mikdash sera construit. « Vegam Laila », mais après, il arrive encore une fois une nuit. Vous allez partir encore une fois en Chutz Laaretz. « Mais imte ba'ayun, ba'ayu, si vous priez, eh bien priez. Shuvu, faites shuva, atiou, et vous allez venir, la goula, il y aura une shuva, il y aura des tfilotes. » Alors, Tana, la Tosefta, elle a dit, Mishum Rav Papayas, au nom de Rav Papayas, Gnai hu le Chizkia vesiato, shelo amru shira. C'est une honte pour Chizkia vesiato et sa groupe. C'est une honte, shelo amru shira, qui n'ont pas chanté, Ache patra haaretz v'amra shira, que la terre a commencé à chanter. Dommage. Qu'est-ce qu'elle aurait dû chanter avant que la terre chante? Je n'aime encore le texte, il dit, Miknaf haaretz, zmirot, shaman, utzvilet, tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire, la terre a chanté? Ça veut dire quoi, la terre qui chante? Quelle terre? La terre, Eretz Israël? Chutz laaretz. C'est-à-dire quoi, la terre a chanté? Comment? Alors, peut-être la Gemara fait une allusion. C'est qu'en vérité, les goyim après, ils ont chanté. Il y avait risque qu'ils aient reçu après une lettre. Ils ont envoyé une lettre phénoménale à Hizkia, le roi. Mais il est formidable, votre roi. Mais votre roi vous a fait un tel miracle que l'armée de Sennacherib, d'une seconde à l'autre, était anéantie. Les goïms étaient émerveillés. Peut-être c'est ça le sens. La terre a commencé à chanter. Même les goïms, vous voulez dire. Les goïms ont chanté. Mais lui, il aurait dû chanter le premier. On avait déjà vu ça. C'est un phénomène. On a vu ça quand Hanani Mishael Vazaria, hier ou avant-hier, quand Hanani Mishael Vazaria sont sortis vivants de la fournaise. Alors, on avait dit, qu'est-ce qu'il est arrivé, Hanani Mishael Vazaria? Hein, il a dit, ils se sont noyés dans le crachat. Vous vous rappelez? On a dit, les goïms, ils ont craché devant Hanani Mishael Vazaria. Mais vous, les Juifs, vous avez un Dieu tellement puissant qui peut sauver trois personnes de la fournaise. Comment ça se fait que votre peuple se prosterne devant la Avodah Zarah? Ils ont eu tellement de crachats qu'ils se sont noyés dans ces crachats. Ça veut dire ils sont tombés de leur prestige. Nebuchadnezzar leur a enlevé le prestige parce que les goyim, ils ont méprisé. Les Juifs sont un peuple proche de Dieu et pourtant, ils ne sont pas assez fidèles. À première vue, quand on lit des passages comme ça, on peut avoir le sentiment que voilà, les goyim, ils étaient plus grands à minime. Ils étaient plus émerveillés de Dieu que nous. En vérité, c'est une fausse image. C'est parce que chez eux, ça ne durait que 5 minutes. Mais chez nous, ça fait des milliers d'années qu'on est fidèles. C'est vrai qu'il y a des fois quelqu'un qui est loin de Dieu et loin de la religion. Et d'un coup, il y a une lumière qui vient, qui l'illumine. Il est tellement pris d'une extase. Qui ne comprend pas que pourquoi les gens qui sont religieux, pourquoi eux, ils ne sont pas dans une telle extase. Parce que l'extase vient quand on sort de l'obscurité. On est obscurité. D'un coup, on voit la lumière, on est ébloui. Donc, les goyim étaient éblouis de voir ça. Nous, les Juifs, on est habitués à des miracles. Ça fait des milliers d'années qu'on a des miracles. Et à part ça, chez nous, l'émouna en Dieu nous oblige de vivre selon la Torah. Mais les goïms qui étaient émerveillés, ils sont pas obligés de faire la Torah. Donc, être excité de l'émouna de Dieu sans prendre sur lui une obligation de se soumettre à la Torah, c'est plus facile que de tous les jours se soumettre à la Torah. Et c'est un phénomène connu. Parfois, il y a des moments où des ignares, des ignorants, des gens loin, ils s'excitent, ils deviennent d'un coup à l'autre, d'un jour à l'autre, super religieux. Plus religieux peut-être que ce que nous appelons religieux. Mais pas toujours cette excitation reste. Elle peut tomber après 2, 3 semaines. C'est dans l'endurance qu'elle se joue. Endurance de 10 ans, 20 ans, toute la vie, de génération en génération, l'endurance d'être religieux. Ça, c'est le grand Nissayon. Pas s'exciter pour une seconde. En tout cas, la Gemara nous dit ici que c'est un gnaï. C'est dommage pour Hizkia qu'il n'a pas chanté et la terre a commencé à chanter avant lui. On trouve une chose qui ressemble à ça. Yitro, il a dit, Baruch Hashem asher hitzil etrem. Quand Yitro il est venu chez Moshe Rabbeinu, il a dit, béni Dieu qui vous a sauvé, qui vous a sauvé de la main d'Égypte. Tana, la Tosefta nous dit, Mishumra papayas, gnaï hu le Moshe, c'est une honte pour Moshe, Veshishim ribo et les 600 000 juifs. Shloam Baruch, Acheba Yitro Vamar Baruch Hashem. Les juifs, ils ont sorti d'Égypte, ils n'ont pas dit Baruch Hashem. Et Yitro, qui était le goy, qui est venu de l'extérieur, et lui, s'est émerveillé de miracle que Dieu a fait, il dit Baruch Hashem qui vous a sauvé. Chez Yitro, c'était quelque chose de costaud, ça restait. Yitro, ce n'est pas simplement comme ces goïms qui ont, pour une seconde, été émerveillés. Lui, s'est converti, est devenu un juif, et il a accepté la Torah comme il faut. Lui, c'est spécial. En tout cas, lui, il a dit Baruch HaShem plus que Moshe et les juifs. Quel est le secret de ça? Comment ça se fait? De venir de loin, ça peut donner un plus grand réveil. Il a eu un scout plus. C'est dommage que les Juifs n'ont pas dit Baruch Hashem. Aujourd'hui, tout le monde dit Baruch Hashem. Pour chaque chose, on dit Baruch Hashem. Bon, on rattrape ce qu'on a oublié à l'époque, on le rattrape aujourd'hui. Alors, comme on a parlé d'Yitro, la Gemara raconte déjà Yitro. Dans les Agadot, ça marche souvent comme ça. On parle un sujet, et ce sujet, il y en a deux sujets dedans. Et comme on a raconté un deuxième sujet, on raconte encore quelque chose du deuxième sujet, qui amène un troisième, après on continue avec le troisième. Souvent comme ça dans les Agadot. Donc, on parlait des Mashiach. Et après, on parlait de quelque chose qui ressemble. Le Goy, il a fait Baruch Hashem. Alors, on a cité Yitro. Alors, on va déjà développer quelques chidushim sur Yitro. Le texte dit « Vayichad Yitro al kol hatova asher asa Hashem le Moshe ou l'Israël. » Vayichad Yitro. Yitro, il se réjouit pour tout ce que Dieu il a fait aux Juifs. Alors, le mot « Vayichad » il est un peu spécial. Il se réjouit. La Torah, il aurait pu dire « Vayismach Yitro ». Le mot « Vayichad » l'achon « Chedva » c'est quand même un mot plutôt rare. Pourquoi la Torah n'a pas voulu dire Vayismach et dit Vayichad? C'est quand la Torah utilise un mot qui est peu utilisé, c'est pour faire une allusion qui a encore un deuxième ou un troisième sens dans ce mot. Alors, Vayichad Yitro, Rav Shmuel. On a ici deux explications en Rav Shmuel. Rav Amar, Sherev Cherev Chada al Besoro. Le mot Yichad vient du mot Chad. Chad veut dire aiguisé. Il a fait passer un couteau aiguisé al Besoro sur sa chair, c'est-à-dire il a fait la Brit Mila. Il a coupé la Orla, il est devenu juif. Parce qu'il y a deux catégories de guérim. Il y a une guerre qui s'appelle guerre Toshav. Un goy, il veut être religieux, mais il veut rester un goy religieux. Il accepte le Shevo Mitzvot, il veut vivre avec les juifs, il veut faire ce qu'un goy a besoin de faire, ça s'appelle guerre Toshav, mais il ne fait pas la Brit Mila. Il a besoin aussi, trois dayanim, on fait un bedin, Gerut de guerre Toshav. Comme ça, Mashmagmar Vodazara d'Absamach Dalet. Maintenant, il y a les guerres Tzedek, le guerre qui vient de vraiment juif. Alors lui, il fait la Brit Mila. Donc, Yitro est devenu religieux, quel genre de guerre? La Torah nous dit, va Yichad. Chad, Milachon aiguisé. Il a fait passer le couteau aiguisé, c'est-à-dire il a fait la Brit Mila. Shmuel Amar, Shmuel dit autrement. Shenasu nase chidudim chidudim kol besaru. Il avait la chair de poule. Toute sa peau est devenue chidudim chidudim, chair de poule. Pourquoi? Parce qu'il a entendu que toute l'Égypte se noyait. Toute l'Égypte était noyée. Il est venu, il a entendu de loin, quand il est venu chez Moshe, Moshe l'a raconté, tout ce qui s'est passé. Et qu'il a entendu comment toute l'Égypte s'est écroulée, les gens en haut, en bas, ils se cassaient la tête. Figure. Et bien ça lui a fait la chair du poule. Pourquoi? Parce qu'il était aussi un non-juif. Les Égyptiens, ils étaient non-juifs. Donc il y avait une certaine relation, une certaine solidarité avec le monde non-juif. Maintenant, il entend que le monde juif s'est écroulé, ça lui a fait quand même un point de... Ça lui faisait un peu du mal que les siens, d'une certaine manière, c'est quand même les siens qui se sont fait noyer. Amarav, Haïnadam Rinche, ça ressemble à ce proverbe qu'on dit qu'il y aurait, quand il y a un converti, Adasaradare, jusqu'à 10 générations après. L'otevazé armaïkame, ne méprise pas un non-juif devant lui. C'est-à-dire, un converti, il ne faut pas parler à lui mal d'un autre non-juif. Parce que comme il y a une certaine solidarité, tu lui touches, ça lui fait mal au cœur. Donc, il ne faut pas, pour une famille telle et telle, il ne faut pas parler mal du membre de sa famille. Pourquoi? Ça lui fait quand même un pincement du cœur. Mais pas seulement les guerres, même son fils et son petit-fils, il ne faut pas parler devant eux du mal sur des goyim. Pourquoi? Parce qu'il ressent une certaine solidarité. Alors, le pasouk il dit, « La reine yeshalach yeshalach ha'adon » c'est aussi un pasouk dont le prophète Yeshaya, « Yeshalach ha'adon Hashem » Dieu, va envoyer Tzvakot be Mishmanav Razon. Alors, le mot Mishmanav, il y a le mot Shemen, Shuman, graisse, gras. Razon veut dire maigre. Il y a quelque chose qui est gras, il y a quelque chose qui est maigre. Dieu va envoyer be Mishmanav, de ceux qui sont gros, qui sont gras, huileux, Razon. Il va envoyer quelque chose de maigre. Il va affaiblir. Mais le mot Mishmanav vient aussi du mot Shmona. Shmona veut dire 8. Shemanav, c'est dire c'est 8, le chiffre 8. Shemanav, c'est un pluriel. C'est chiffre 8. Donc, ce qui est le chiffre 8, il va envoyer, et chiffre 8, et qui sont gros, il va envoyer Razon, une certaine malédiction, qu'il ne sera pas gros, ils ne seront pas gras, ils deviennent maigres. Ça veut dire quoi? Alors, le Gemara nous raconte. Yeshalach ha'adon shetzvakot b'mishmanav razon. Mai b'mishmanav razon. Qu'est-ce que le prophète, il veut dire b'mishmanav razon? Les prophètes sont écrits dans un style qui n'est pas un style simple. Les prophètes, c'est plein des images, c'est des allusions, c'est des tournures de phrases compliquées. Pourquoi? Pour charger le texte avec différents enseignements. C'est-à-dire, le prophète, quand il parle, il pense à plusieurs choses. Et en vérité, ça ne change pas tellement ce que le prophète pense. C'est ce que Dieu veut que lui prononce. Et après, on peut trouver dans ses paroles. Dieu veut charger beaucoup de missions, beaucoup de messages dans un texte qui est court. Dans la Torah, le texte, il est toujours clair, le pshat, il est toujours un pshat très clair. Après, il y a des allusions. Mais comme la Torah, ce sont des mitzvot. Les mitzvot sont formulées clairement. La mitzvah, comment tu fais? Pas par des allusions. Les mitzvot, voilà, tu fais tzitzi, tu fais shabbat, tu ne travailles pas. Un langage clair. Les détails sont dans la Torah orale. Mais les klalim, ils sont clairement, parce que la Torah, c'est un livre de mitzvot. Les prophètes ne font pas des mitzvot. Le prophète, c'est des moussards. Le prophète, c'est pour réveiller, c'est pour faire choquer les gens, c'est pour émerveiller les gens, c'est pour annoncer des choses, c'est pour des choses du futur, etc. Donc, dans les paroles du prophète, il y a souvent plusieurs pshatim. Maï be mishmanav razon. Qu'est-ce que c'est bizarre, ce mot be mishmanav razon. Amar HaKadosh Baruch Hu. Yavo Chizkia. Qui vient Chizkia, chez Yeishlo Shmona Shemot. Chizkia, il avait 8 noms. Où il avait 8 noms? On avait vu ça avant. On revient dans la Passouk. Où sont les 8 noms? Non, on n'a pas encore vu les 8 noms de Chizkia. On n'a pas vu ça? Ah non, on n'a pas encore vu les 8 noms de Chizkia. Où c'était? Une minute, je ne le vois pas ici. La Gemara va l'appeler sûrement après. Oui, plus tard. Sanhérif, Chizkia, il avait 8 noms. Et Sanhérif avait aussi 8 noms. Le Tanakh le nomme de 8 noms différents. Yavo Chizkia, il vient Chizkia chez Eshlo Shmona Shemot, qui a 8 noms. Vifra Misanhérif, et qui va punir Sanhérif. Qui a aussi 8 noms. Chizkia, où on voit qu'il a dit 8 noms? D'Irtiv, le passage qu'il dit, Yel et Yulat Lanou, voilà, un enfant nous est né. Qui c'est nous? Nous, c'est le peuple juif. Alors, on avait dit que Chizkia, il était le fils de son père. Qui c'est son père? Achaz. Achaz était un archiracha. Yeshaya Hanavi, il parlait. Heureusement qu'après ce Achaz viendra un fils qui va hériter le royaume de Juda et lui sera un tzaddik. Alors le prophète il parle. Yel et Yulat Lanou, un garçon nous est né. C'était déjà après la naissance de Chizkia Melech. Ben Nitan Lanou, un fils nous a été donné. Vati Hamisra al Shichmo, et la charge de porter le peuple juif était sur ses épaules. Vayikrashemo, il a appelé son nom, Dieu l'a appelé son nom, Pele. Mère risquée, c'était un phénomène. Yoetz, Yoetz, ça veut dire Yoetz, un conseiller. Quel, c'est un langage divin, ça veut dire une puissance divine phénoménale. Gibor, costaud. Avi, c'est un père, un chef, ad, à jamais. Sar Shalom, le ministre de la paix. Donc, ce sont les huit noms que Hizkia a là. Yeladouladano, Benitalano, et Yézan, Aliko Pele, Yoetz, El, divin, Gibor, Avi 5, Ad 6, Sar ministre, Shalom la paix. Ce sont les huit noms de Hizkia. Ça veut dire quoi, il a huit noms? Ça veut dire quoi, il a huit noms? Le nom définit quelque chose, la définition de sa neshama. On va dans la Chumash. Avram, il s'appelle Avramon Goyim, Yitzhak. Pourquoi il s'appelle Yitzhak? Parce que Yitzhok Asal Yashem Yaakov. Pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce qu'il a tenu le talon. Après, c'est l'Israël. Israël Yashem Echa. Pourquoi il s'appelle Rouven, Shimon, Lévi? La Torah donne chaque fois une explication. On va dans la Torah, que les noms, que les avots, ils ont donné, il y a un sens dedans. Et ce sens-là, soit que les avots et les nevim, ils avaient Ruach HaKodesh, évidemment, soit que les simples, le Makadosh Baruch Hu, il met dans la bouche une idée, que ça vient comme ça, le monde dit, il met dans la bouche une allusion. Alors, le nom défini, spécialement chez les grandes personnalités, si maintenant on dit Hizkia, il y avait huit noms, ça veut dire qu'il avait huit personnalités. Son âme était composée par plusieurs. Il avait vécu plusieurs vies, plusieurs fonctions. Un homme, il a une fonction. On peut avoir deux fonctions. Un homme, il peut être père de famille, mais il est aussi le maire de la ville. Il peut aussi être médecin par hasard. Il peut aussi être... il a une autre fonction, il est président de la communauté. Il a plusieurs personnalités. Alors, Hizkia est un homme très riche, avec huit personnalités. Une personnalité qui s'appelle Yoetz, une qui s'appelle Shalom, une qui s'appelle Pele, une qui s'appelle Gibor, etc. En chaque chose, il faut définir. C'est une étude. Les Agadot, non, je la lis comme ça, je la traduis. En vérité, chaque mot de la Gemara, il faut doucement, doucement. Qu'est-ce que c'est Hizkia, c'est le Shalom? Qu'est-ce qu'il s'appelle Sar? Qu'est-ce qu'il s'appelle Avi? Quelque chose, il faut définir. Alors, la Gemara pose une question. Vaïke Hizkia, mais attends. Tu as dit que le roi Hizkia, il avait huit noms. Mais attends, il a un neuvième nom, Hizkia. Il s'appelle bien Hizkia. La Gemara dit, j'ai Hizkoka. Hizkia, ce n'est pas sa définition. C'est Hizkoka. Dieu lui a donné la force. C'est une aide que Hachem lui a donnée, ce n'est pas lui-même. Lui-même, c'était les huit noms qui sont marqués, après c'est une aide que Hachem lui a donnée. D'abord, une autre explication, Hizkia, chez Hizeket Israël, Avim Shebeshemaim, il a renforcé les Juifs vers leur Père au ciel. Sanhérif. Maintenant, Sanhérif, il a aussi huit noms. Dichtiv Bey. Il est marqué une fois dans le prophète Tiglat Pleser. Où il est marqué ce mot? Pimei Pekach Melech Israël. Il y avait un roi juif qui s'appelait Pekach, qui était un contemporain de Hizkia. Pekach, c'était des 10 tribus, un des derniers rois des 10 tribus. Hizkia était de la famille de Yehuda, de la famille de David, de Yerushalayim. Pekach Ben Ramaliahu, il a régné sur les 10 tribus. Pimei, à l'époque de Pekach Ben Israël, El Melech Israël, bat Tiglat Pil Esser. Il est venu Monsieur Pil Tiglat Pil Esser, Melech Ashur, le roi de Ashur. Pourquoi il s'appelle Tiglat Pil Esser? Tiglat. Quel mot il y a dans le mot Tiglat? Tiglat, il y a le mot Galut, parce qu'il a exilé les 10 tribus. Pil Esser. Tiglat Pil Esser, Melech Ashur, va yikachet Ion. Il a pris la ville Ion, Vet Avel, Vet Maha, Vet Yanoach, Vet Kedesh, Vet Hatzor, Vet Agilad, toute la Jordanie, Vet Aglila, le Galil, Koleretz Naphtali, tout le pays de Naphtali, Vayaglem, Ashura. Il les a fait exiler en Ashur. Assur, c'est la grande Syrie. Donc, une fois la Torah, elle appelle Tiglath-Pileser. Après, une fois, elle s'appelle Palneser. Il y a un autre passage d'Ivrayamim, va y avoir Alav Tilgat, pas Tiglat, mais Tilgat Pilneser. Mais le Hashur, Bayat, Sarlo, Velo Hazako, Pilneser. Une autre fois, il s'appelle Shalmaneser. Alav Ala Shalmaneser. Qu'est-ce que c'est Esser? On voit ici la troisième fois que ce roi, Senheriv, il y a le mot Esser dedans. Esser Aïn, Aleph Samach Resh. Peut-être c'est une noblesse de la Syrie, les rois, ils s'appellent quelque chose avec Esser. Shalmaneser, Melech Hashur, Vahilo Hoshea Evet, c'était l'époque de Hoshea ben Eila, c'est le dernier roi juif, Hoshea ben Eila, Vayasolo Mincha. Donc Shalmaneser, c'est les mêmes personnes. Après, une fois, il s'appelle Poul. Poul dans Sefer Malachim, Ba Poul, Melech Hashur. Il est venu, monsieur Poul, le roi de Hashur à la Haaretz, Yitin Menachem, Menachem Ben Gadi, c'était un homme qui se prit le pouvoir. Menachem Gadi, les poules, Elef Kikekes, il lui donnait 1000 tonnes d'argent, Liot, Yada, Vito, Larzik, Amalacha, Biado. Poul. Pourquoi il change des noms? Alors, on trouve ça aussi, la Havdil, aujourd'hui, dans le monde Goy aussi. Il y a souvent un roi, il a deux noms, spécialement au Proche-Orient, c'est très courant, chez les Arabes, chez d'autres Proche-Orient. Il a deux noms. Ça. Pourquoi les gens changent le nom selon une certaine fonction? Après, il s'appelle aussi Sargon. Bishnat bo tartan ashdoda bishloachato Sargon melech hashur. Il s'appelle Sargon. Après, Asnapar. Une fois, il s'appelle Asnapar. Ou Charouma et les autres peuples disent Hagli Asnapar. Ou Asnapar, je ne sais pas dire. Osnapar. Rabba Veyakira, le grand Osnapar. Alors donc, il a aussi 8 noms. La Gemara demande, mais attends, tu as oublié un 9e nom. Il s'appelle Sancherif. Normalement, dans la Tanakh, il s'appelle toujours Sancherif. Alors il dit non, le mot Sancherif, c'est un surnom que la Tanakh lui a donné. Comment? Chez Sichato Riv. Sa parole, sa discussion, Riv, c'était se disputer. C'est un homme qui s'est disputé. Un homme toujours en combat avec tout le monde. Si Chato Riv, sa parole, je vais faire, c'est pas un homme de paix. Normalement, il y a des rois. De temps en temps, on fait la guerre. De temps en temps, on veut faire la paix. Chez lui, il n'y avait pas de paix. Chez lui, il n'y a que la guerre. Si Chato Riv. La Barakher, un autre pshat, chez Sach, il a parlé. Venicher, il a, comme on dit le mot Nicher. Nicher, c'est grogner. C'est Nicher, c'est quand il y a un davaracher qui fait un bruit avec son nez. Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment dire un mot. Un oiseau, il fait pied. Piaille. Une vache fait, comment on dit, mot, elle fait, comment on appelle ça? Chaque animal, il a sa façon comment s'exprimer. Et un chazir, il s'appelle Nocher. C'est fait avec le nez, comme ça, un bruit dégoûtant. Je sach ve nicher dvarim klapemala. Il avait la chutzpah, il parlait avec une grande chutzpah contre Dieu. Son discours, il est marqué dans la Tanakh. Il a dit à Chizkia Melech, ne crois surtout pas que ton Dieu, il peut te protéger. Ne croyez surtout pas que il faut pas que Chizkia y pense parce qu'il est religieux, parce qu'il respecte la loi de son Dieu, que son Dieu est capable de le protéger. Il n'est pas capable. Aucun des dieux Proche-Orient a pu échapper au pouvoir de Sanhérif. Sanhérif est le plus fort même que les dieux des Juifs. Bekitsur, il a parlé des paroles de Rechutzpah. C'est pour ça qu'il s'appelle Sanhérif. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il a dit, Mipnema zacha oto racha likroto asnapa rabba yakira. Quel mérite il avait ce Sanhérif que le prophète l'appelle asnapar rabba yakira, le grand asnapar, le grand empereur, rabba, le grand yakira est important. Le Tanakh lui donne des lauriers. Shadrach lui lance des lauriers. Il était important, cet homme. Pourquoi? Donc, il faut qu'il ait un mérite. Même Racha Maroucha qu'il était, si la Torah lui donne des louanges, c'est qu'il a un mérite. Quel était son mérite? Il parlait pas mal du pays d'Eretz Israël. Dieu, il a dit à Moshe, c'est une bonne terre, et respectée. Si Dieu, il a dit que la terre d'Eretz Israël, elle est bonne, Dieu, il a donné une bonne terre au peuple juif, à son peuple, hein? Je vais pas parler mal, je vais pas dire Eretz Israël, c'est mauvais, c'est une terre mauvaise. Si je dis la terre, elle est mauvaise, c'est la Shonara sur Hachem. Il a donné à son peuple, hein, une mauvaise terre. Lui respecter, non. C'est une bonne. Il n'a pas parlé mal. D'où on va ça? Ce n'est pas encore le texte, il dit Adboi velakachti etchem el eretz ka'artzechem. Dans les discours que Chizkia il a envoyé à travers Rabshake, il a dit venez avec moi, capitulez s'il vous plaît, je vais rentrer dans la ville, je vais prendre la population de Jérusalem, je vais vous donner une autre terre, vous n'avez pas besoin d'Israël. Je vais vous prendre. Une terre qui est autant bien que la vôtre. Normalement, on aurait attendu que lui dit, je vous donnerai une meilleure terre. Il veut séduire des gens. Pourquoi vous restez dans terre, dans votre terre? Venez chez moi. Pourquoi? Parce que je vous donne une pire. Eh bien, ils ne voudront pas venir, il faut dire. Parce que je vous donne une meilleure. Mais il n'osait pas dire une meilleure. Non, je ne peux pas proposer aux Juifs une meilleure terre que la vôtre. Je peux leur dire une terre qui est autant bien que la vôtre. Une terre qui est bonne comme la vôtre. Rav et Shmuel. Il y a un machloket Rav et Shmuel. Chadam a dit Melech Pikei Achaya. Il était intelligent, ce Sanhérif. Chadam a dit Melech Tipeshaya. Il était bête. Le manda Amar Melech Pikei Achaya. Ce qui dit qu'il était un roi intelligent. Pourquoi? Pourquoi? Comment je vois qu'il était intelligent? Parce qu'il a dit une terre comme votre terre, pas une terre meilleure. Parce que si je dis aux Juifs, je vous amène dans une terre qui est meilleure que la vôtre, Amro, ils vont dire, Kamshakart, du monde. Mais non, les Juifs, ils savent que leur terre, c'est la meilleure. Proposer aux Juifs une meilleure terre qu'Eretz Israël, ça n'est impossible. Les Juifs, ils savent que leur terre est la meilleure. Donc, ils ne vont pas croire. On manda Amar, Melech Tipeshaya, et ceux qui disent qu'en vérité, il était bête. Pourquoi on dit qu'il était bête? Parce que Im Kem, Maïrevoute. Maïrevoute. Parce que dire aux gens, je vous amène une terre qui est autant bonne que la vôtre. Bon, alors pourquoi tu veux qu'on vienne? Eh bien, on reste ici. Tu veux séduire les gens de venir avec toi. Il faut, si tu es intelligent, tu proposes quelque chose de mieux. Tu dis, venez une terre qui est meilleure. Mais dire, venez une terre comme la nôtre, comme la vôtre. Bon, alors on est bien chez nous. Donc, c'est une preuve qu'il n'était pas très intelligent. Et l'autre avait dit non. Il lui est intelligent. Parce qu'il savait que quoi? Que les Juifs ne font pas, on ne peut pas se moquer d'eux. Leur proposant une meilleure terre, ça ne marchera pas. L'Heichan Aglilehu, vers quel pays il a exilé les 10 tribus? Alors là, c'est une question historique. Vers où les 10 tribus sont parties? Beaucoup de gens, ils ont déjà posé cette question. Les 10 tribus, ils sont partis où? En vérité, dans le texte, il est marqué Bachalach, Bachavor, Bahare, Gozan. Comme ça, il dit le texte. Chalach, Chavor, et les montagnes de Gozan. Les montagnes de Gozan. Où c'est Gozan? C'est possible que Gozan veut dire le Gange. Il y a un fleuve, le Gange. C'est un immense fleuve de milliers de kilomètres. Et si je ne me trompe pas, il sort en Afghanistan. Après, il traverse l'Inde, en dessous de l'Himalaya, en dessous du Tibet. Et après, il va à Calcutta, et après, il va dans la mer. C'est un immense fleuve, Gange. Gozan, peut-être c'est Gange, mais je ne sais pas. Laïchan Aglilehu, vers où? Chalach, Chavor, et Nahari, les fleuves de Gozan. Alors, les fleuves de Gozan, ça veut dire les fleuves qui rentrent peut-être dans la Gange, peut-être. La grande elle demande la Ichana Glélu, vers où il les a exilés. Mar Zutre Amar, l'Afriki, en Afrique. Alors, Afriki, ça ne veut pas dire ce que nous appelons Afrique. Il y a quelque chose qui s'appelle Afriki qui est au Proche-Orient. Au Proche-Orient, il y a une région qui s'appelle Afriki, pas le continent Afrique. Ça, c'est sûr qu'il ne les a pas envoyés en Afrique. Sancher, il les a amenés dans son pays. Rabbi Hanina Amar, le Hare Slog, les montagnes de neige. Vers une région où il y a des montagnes de neige. C'est-à-dire quoi, des montagnes de neige? Des montagnes sur lesquelles il y a des neiges. Mais toutes les montagnes, il y a des neiges. Non, c'est-à-dire des très hautes montagnes. À première vue, les montagnes de neige. Bon, ça peut être le Pakistan, il y a des montagnes. En Afghanistan, il y a des montagnes. En Iran, il y a des montagnes. Mais les plus grandes montagnes, c'est au Népal, c'est au Himalaya. C'est dans la région, peut-être, des Himalayas, au Tibet. Il les a amenés jusqu'au Tibet, peut-être. Ou en Afghanistan, c'est très, très montagneux. Areslog, les montagnes de neige. Là-bas, il les a amenés. Il y a dans l'histoire, il y a des allusions, on raconte qu'il y a au Tibet, les anciens juifs. En Afghanistan aussi, on parle. Les Pashtuns, en Afghanistan, il y a une tribu qui s'appelle Pashtun. Ce sont des millions de gens. Comme ça, beaucoup, beaucoup de gens racontent que les Pashtuns disent que nous sommes des anciens juifs. Nous faisons partie des 10 tribus. D'ailleurs, en Afghanistan, il y avait un roi qui a abdiqué en 53. Il s'appelait... J'ai oublié comment il s'appelait. En 53, il a abdiqué. Lui, il a dit, moi aussi, je descends des 10 tribus. Comme ça, beaucoup de Pashtuns, ils ont certains coutumes juifs aussi. Ils disent qu'on sait, on était musulmanisés, on était obligés d'accepter à un moment de l'histoire la religion musulmane, mais en vérité, nous sommes d'origine des 10 tribus. Vrai ou faux, je ne peux pas savoir, mais eux, ils disent comme ça. L'Afghanistan n'est pas loin des Himalayas. Kazakhstan, c'est pas loin là-bas. Arislop. Aval Israël, Sipou Biknuta chez l'Eretz Israël. Les Juifs, ils ont parlé mal d'Eretz Israël, c'est dommage. Lui n'a pas parlé mal, mais les Juifs, ils ont oui parlé mal. Alors, pourquoi ils ont, où on voit qu'ils ont parlé mal? Les Simat ou Sous. D'abord, il les a amenés dans une région qu'on appelait Sous. Sous ou Sos. Amre, ils ont dit, Chavieki Arin. Cela, cette terre, elle est belle comme la nôtre, comme il nous a dit. Chavieki Arin, c'est une belle région comme la nôtre. Sous. Imatu Almin. Quand ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Almin, Amre, ils ont dit, Ke Almin. Oui, c'est comme notre terre, ça aussi. Kimato Sous Tere. Après, ils sont arrivés à une ville, région Sousterée, c'est pas Sisteron, en France, il y a un endroit Sisteron. Ils sont arrivés, Sous peut-être, c'est en Tunisie, mais c'est pas ça. Kimatu Sousterée, quand ils sont arrivés dans une ville, ça s'appelle Sousterée, veut dire deux Sous. Amre, ils ont dit, Al-Khad Tren, cela, elle est double de notre terre, elle est meilleure que notre terre. Ils étaient émerveillés de cette terre, elle est le double. Alors, qu'est-ce que c'est? Où c'est la terre qui est meilleure qu'Eretz Israël? À quelle terre ils font allusion? Au Tibet. Les Tibets, non, ça c'est mis sur la route. Le Tibet, il n'est pas meilleur qu'Eretz Israël. 3000 mètres hauteur, c'est à 3000 mètres hauteur, c'est froid. Non, il doit y avoir des beaux endroits sur la route. Au Pakistan, il y a des endroits très beaux. J'en irai. Bon, on va arrêter ici. Je voudrais vous rappeler, si vous voulez aider au Beit HaMidrash de Sarcelles une fois par année, 26 juin chaque année, si vous voulez aider, il y a des billets à vendre pour vous adresser à Rouven Elbez, Iskolim Mitzvot. Tov.